VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Ouagadougou, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. En RDC, l'appel à manifester contre le président Joseph Kabila à Kinshasa, lancé par l'UDPS, le parti historique de l'opposition congolaise, n'est pas suivi ce lundi. Les habitants de la capitale se tairont chez eux suite à l'interdiction par la police de tout rassemblement sur l'ensemble du territoire. Le point avec Jean-Roger Bion.
La marche est interdite car son itinéraire comporte les germes de l'insurrection, a déclaré à l'AFP le colonel Pierre Rombo Mwanamputu, porte-parole de la police congolaise. Cet appel à manifester a été lancé par l'UDPS, le parti fondé par l'opposant congolais historique Étienne Tshisekedi, décédé le 1er février à Bruxelles à 84 ans. Dimanche, son fils Félix Tshisekedi, président du rassemblement d'opposition, a accusé le président congolais Joseph Kabila d'être le principal obstacle au processus démocratique dans ce pays qui traverse une grave crise politique. Sa déclaration intervient deux jours après la nomination de Bruno Tshibala, un dissident de l'UDPS et du rassemblement, au poste de premier ministre par le président Kabila. Cette nomination est une conséquence des tripatouillages du pouvoir, fait au mépris de la lettre et de l'esprit de l'accord du 31 décembre, a encore fustigé dimanche M. Tshisekedi. Des sources gouvernementales et au sein de la majorité interrogée par l'AFP ont au contraire martelé que cette nomination respectait bien l'accord de la Saint-Sylvestre.
Tchad, la coalition internationale tournant la page, exige la libération de son coordonnateur pour le Tchad, Nadjo Kaina, également porte-parole du mouvement citoyen IJINA. D'après diverses sources, il a été arrêté jeudi par des éléments de l'Agence nationale de la sécurité. Le mouvement INIA a appelé à une manifestation de soutien à Nadjo Kaina ce lundi. Timothée Nonangmaya, Joan N'Djamena, Bertrand Solon-Ganjei, rapporteur national du mouvement.
Jusque-là, on n'a pas pu avoir accès à lui pour le voir. Est-ce que du point de vue physique, il va bien? Même nos avocats ont tenté en vain, ça n'a pas fonctionné. Donc, nous pourrions vous dire à ce niveau que la situation n'a pas tellement évolué. Il est toujours gardé dans les locaux de l'Agence nationale de sécurité ANS.
Vous appelez lundi à une manifestation en sa faveur. Qu'en est-il?
Nous avons lancé ensemble, avant qu'il ne soit arrêté, une journée INA le 10 avril 2017. En guise de protestation contre la mauvaise gouvernance généralisée, l'impunité, l'injustice et tout ce que le peuple tchadien est en train de subir. Et malheureusement, il a été interpellé. Nous avons donné 48 heures au gouvernement de le relâcher purement et simplement. Ou à la limite qu'il soit remis aux institutions compétentes, que ce soit la justice et autres, afin que le dossier puisse évoluer. Malheureusement, l'Agence nationale de sécurité, qui n'est pas habilitée à arrêter quelqu'un de séquestre, regarde jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de manger là-bas, qu'est-ce qu'il est en train de boire. Nous disons à la population d'observer strictement la journée que nous avons lancée, qui est de s'habiller en rouge, et de montrer au pouvoir du MPS et le président Déby que le peuple est fatigué.
Bertrand Solon-Ganjei, rapporteur national du mouvement IINA, joint à N'Djamena. Au Burkina Faso, l'insécurité dans le nord du pays a forcé de nombreux travailleurs à fuir le secteur, y compris les enseignants sommés par les terroristes d'enseigner en arabe. À l'issue d'âpres négociations entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement, ces fonctionnaires ont accepté de retourner à leur poste. Mais ils restent sur le qui-vive, même en pleine riposte des forces de sécurité burkinabé dans la région. De Ouagadougou, le compte-rendu de notre correspondant Issa Napon.
Les menaces terroristes sur les enseignants contraints pour continuer leur travail à cours en arabe ont obligé les syndicats d'enseignants à soutenir leurs collègues qui fuient les zones à risque de peur de se faire tuer. Un état de stress et de peur permanente qui en rajoute à cette psychose dont il est difficile de se défaire, souligne cet enseignant et secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur SNES, Anatole Zongo.
Parce que à partir du moment où des djihadistes, les terroristes peuvent déboucher d'un moment à un autre et mettre en exécution donc leur plan macabre. Ça fait que vraiment on est constamment sur le qui-vive. Dès qu'on voit quelqu'un qui est effectivement anti-urbané, on voit des gens qui effectivement ressemblent à des Touaregs, bah, ça fait que c'est vraiment la peur au ventre. On a l'impression justement que c'est une zone un peu poreuse. Parce que chaque fois, ils quittent la partie malienne pour se retrouver dans nos frontières et ils agissent et ils repartent. Donc il va s'en dire qu'on ne peut pas avoir vraiment la tranquillité.
Le ministre en charge de l'éducation nationale était déjà monté au créneau en pleine tournée dans le Nord pour inciter les enseignants à retrouver les classes et à faire confiance au gouvernement. Une assurance réitérée par le ministre en charge de la sécurité intérieure, Timo Compaoré, s'est voulu persuasif.
Vous aurez à le constater, peut-être que vous avez déjà commencé à le constater, et au fil des semaines et des mois à venir, nous allons monter en puissance, non seulement au niveau des renseignements, mais aussi au niveau des moyens permettant aux forces de défense et de sécurité de continuer à assumer leur mission de défense de notre territoire, de ses populations. Nous allons préférer laisser le terrain parler pour que vous-même vous soyez témoin.
De Kourfayel à Dori, en passant par Diguel et Dibo, les enseignants retrouvent donc leur classe rassurés par les autorités, même si la peur reste permanente, rappelle Anatole Zongo.
Il faut dire qu'avec les mesures prises par le gouvernement, peut-être que les choses vont un peu s'arranger. Parce qu'ils nous ont dit qu'il y aura donc une patrouille à tout moment. Il nous est difficile de dire que les uns et les autres se sentent complètement sécurisés, rassurés, mais on peut dire que l'État, en tout cas, a fait des efforts. Au regard donc de ces efforts qui ont été consentis par l'État, eh bien, je crois que c'est ça qui a prévalu à ce que donc les gens rejoignent le poste.
Des rares enseignants rencontrés sur leur préparatif de retour, aucun n'a voulu s'exprimer, mais ont tous laissé percevoir encore quelques craintes. Ces enseignants retrouvent leur classe, conscients que plus rien ne sera comme avant pour encore un certain temps. Issa Napo Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Nigeria, les islamistes de Boko Haram ont tué au cours du week-end 8 civils et 5 soldats dans 2 attaques distinctes dans le nord-est du pays. Samedi, 9 personnes parties de Maiduguri, chef-lieu de l'état de Borno, pour ramasser du bois de chauffe à une dizaine de kilomètres, ont été interceptées près du village de Kayamla par un groupe de djihadistes qui ont tué 8 d'entre elles. Une seule a réussi à s'échapper, selon des habitants. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sissi a décrété l'état d'urgence pour 3 mois après des attentats à la bombe de dimanche contre 2 églises coptes. Ces attaques revendiquées par le groupe État islamique ont fait 45 morts et des dizaines de blessés. Le chef de l'État égyptien a également ordonné le déploiement de l'armée à travers le pays en appui à la police. Pour une réaction aux attentats anti-coptes de dimanche, Timothée Donangmaya joué en Caire, l'ancien journaliste Chérif Albert.
Je crois que la majorité des Égyptiens de confession musulmane sont très solidaires avec les Coptes, mais ça n'empêche, il y a un fragment de la société qui plus ou moins est neutre, ou bien il adopte la même logique de revanche, parce que les Coptes, ils ont soutenu le coup d'État contre le président islamiste élu, et donc au regard de certains Égyptiens, ils sont en train de payer le prix de ce soutien.
Le président Abdel Fattah al-Sissi a déployé l'armée en appui à la police. Est-ce que cela rassurera les Coptes?
Pour moi, c'est un constat d'échec, parce que lors du dernier attentat, il y a presque 4 mois maintenant, contre une chapelle au Caire qui a fait aussi une trentaine de morts, il a refusé de qualifier cela comme un échec des services de sécurité, en arguant que le terrorisme touche tous les pays, que c'est plus ou moins normal de frapper au Caire. Ah, je crois que c'est un aveu. Il concède que la police est incapable de protéger les églises. Ça indique aussi que la situation dépasse un peu les moyens des forces de sécurité.
L'ancien journaliste Chérif Albert, joint au Caire. Somalie, un attentat suicide a visé aujourd'hui un camp d'entraînement de l'armée près de Mogadiscio et un employé du gouvernement a été tué par l'explosion d'une bombe dissimulée sous sa voiture dans la capitale. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui, les autorités somaliennes. Ces attaques n'ont pas encore été revendiquées, mais le groupe islamiste Al-Shabaab a multiplié les opérations de ce genre ces derniers mois. L'explosion d'une voiture piégée dimanche devant une base de l'armée a fait 15 morts, en majorité des civils qui circulaient à bord de minibus. Aucun bilan n'a été fourni pour le moment en ce qui concerne l'attaque de ce lundi contre le camp militaire. Et pour terminer, la Suède a observé aujourd'hui une minute de silence pour les victimes de l'attentat au camion Bélier qui a fait 4 morts vendredi à Stockholm. Un attentat perpétré selon la police par un Ouzbék affichant des sympathies djihadistes. Une cérémonie de Recueillement à laquelle ont participé la quasi-totalité de la famille royale suédoise ainsi que le Premier ministre Stefan Löfven et des diplomates étrangers, en particulier à Stockholm. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.